jusqu'à 20h au réseau Cogeco Média. Voici Ça va aller loin avec Geneviève Peterson.
Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Vous l'entendez dans le ton de ma voix. Je suis très, très, très contente de vous retrouver. Hey, j'ai vécu des sentiments partagés ces dernières semaines parce que, bon, le Canadien, c'était quand même le fun là, qu'on fasse les séries éliminatoires, même si on a juste duré pendant un tour. Mais comme je vous disais, je vivais des sentiments partagés parce que moi, pendant ce temps-là, j'étais ailleurs dans d'autres émissions, mais je n'étais pas avec vous. Et depuis cet automne qu'on bâtit notre relation, les gens participent à l'émission, nous envoie des commentaires, des questions. Donc, j'avais bien, bien hâte de vous retrouver. Puis, j'avais hâte aussi de retrouver mon équipe, Sarah Comadina et Martin Plamondon. Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est une journée spéciale pour toute l'équipe. Avant de vous faire le menu de l'émission, je vais y aller avec une petite confidence. OK, on part ça, là. Je vous ai parlé de mon défi sans alcool récemment. Je m'étais engagée à faire un an sans alcool. OK, ça a fait 4 mois hier que je ne bois plus. J'ai jamais triché, je vous le jure, là. J'ai même pas pris une gorgée de vin, une gorgée de bière, rien. Et je sens que je suis pour de vrai sur le bord de flancher. Alors, si vous avez des trucs, textez-moi-les dans notre messagerie au 98985 et aussi l'adresse courriel de l'émission Ça va aller loin @98.5fm.ca et mes glorieux médias sociaux où c'est toujours possible de vous épancher. Puis si vous avez aussi arrêté de boire puis vous avez de la difficulté à l'arrivée des beaux jours, ça va me faire plaisir d'écouter vos doléances. OK, menu aujourd'hui, j'ai reçu des menaces vraiment intenses sur TikTok. C'est une fraude, OK? Je vous le dis tout de suite, mais je vous révèle pas la nature de cette fraude-là. J'ai pogné un 2 minutes, comme on dit en bon québécois. J'ai lu ça dans mes messages privés, puis il a fallu que je m'y reprenne à 3-4 reprises en me disant, ben écoute donc, c'est-tu vrai cette affaire-là? Je savais bien que c'était pas vrai, mais vous allez voir tantôt quand je vais vous révéler la nature de la menace. C'était quand même assez épeurant pour que je me dise, et si c'était vrai? Donc, on recevra Éric Parent, que vous connaissez, c'est un expert en sécurité électronique, pour parler de cette fraude-là en particulier. Et gros dossier sur les autobus scolaires dans le Journal de Montréal en fin de semaine. Moi, ça me fait bondir parce que l'autobus scolaire, je l'ai pris toute ma vie quand j'étais petite au primaire et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé finalement. Des menaces des élèves turbulents, des chauffeurs et des chauffeuses qui n'ont pas d'affaires là parce qu'ils sont impatients, sont à bout, mais en même temps, c'est tellement mal payé puis les sont pas le fun, donc ça se bouscule pas au portillon, vous l'aurez compris, mais c'est quand même assez perturbant, là. Des élèves qui se perdent, des parents qui sont obligés de mettre des AirTags sur les vêtements de leurs enfants dans leur sac à dos pour les retrouver. Donc, évidemment, c'est un dossier qui fait beaucoup jaser parce que ça nous fait nous poser des questions sur la sécurité de nos enfants. Et on continue à parler de l'école. C'est le retour de nos chroniqueurs, pardon, parmi ceux-ci, Sylvain Dancause qui va venir nous parler de plein de sujets qui ont rapport à l'école. On va revenir sur l'entrevue du ministre Drainville. À tout le monde en parle. Et on va dresser un portrait de la situation de la santé mentale de nos élèves au Québec. On le sait, il y a de plus en plus d'incidents violents dans les écoles, d'incidents de tout genre. Est-ce que c'est la santé mentale qui devrait peut-être être pointée du doigt? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait faire davantage? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Et on aura Gabrielle Lisa Collard à la toute fin de l'émission. Vous la connaissez, elle est autrice, mais elle est aussi très, très active sur ses médias sociaux et elle a publié un Reels, donc un court vidéo sur Instagram qui est presque rendu à 1 million de vues, si je ne m'abuse. Gabrielle Lisa Collard, c'est une femme qui est grosse, je le dis parce que c'est une militante anti-grossophobie. Et dans cette vidéo-là, qui dure 3 minutes, elle ne dit absolument rien. Donc, elle fixe la caméra et invite les gens à regarder son corps et à laisser venir toutes les réactions qui peuvent nous venir en tête quand on voit un corps comme le sien. Et il y en a des réactions. Est-ce qu'elles sont toutes heureuses? J'en doute, mais ce sera la question qu'on va se poser. Pourquoi on est toujours confronté quand on voit des corps gros, des corps qui sont peut-être en dehors des normes qu'on nous présente normalement sur les médias sociaux, même à la télévision, au cinéma? Mais tout de suite, on est avec Valérie Beaudoin. Salut!
Salut!
Je suis contente que tu sois avec moi pour mon retour.
Ben oui, je suis comme honorée pour la fête de Martin aussi.
Absolument. Écoute,
c'est un deux en deux.
Les festivités sont commencées parce que c'est, bon, les 100 jours. Je vais dire du règne, parce que c'est vraiment
oui,
ça règne
bien.
De Donald Trump. Puis on fait toujours un petit récapitulatif. Ça fait partie des habitudes lorsque ça fait 100 jours qu'un président est au pouvoir. Le président américain qui a accordé une entrevue à NBC un peu plus tôt. Je pense que c'était avant hier, si je ne m'abuse. Il y a plusieurs sujets sujets importants, évidemment, ont été abordés, mais c'était l'autre, Kristen Welker, qui menait cette entrevue-là. C'est une femme. Et c'est drôle parce que je me disais, quand je vais parler à Valérie, je vais lui poser la question, est-ce que tu penses que d'avoir choisi une interlocutrice féminine, connaissant le personnage, connaissant l'historique de Donald Trump avec les femmes, c'était volontaire, premièrement, de NBC? Est-ce que ça a changé aussi peut-être la façon de répondre aux questions de Donald Trump?
Écoute, je te dirais, dans d'autres circonstances, peut-être oui, mais là, d'avoir quand même une journaliste chevronnée, de media press.
Absolument, mais oui.
Et je trouve que son arrogance, en ce moment, elle est dirigée à tous les journalistes des médias de masse, tu sais, les fameux fake news.
Hein, femme
comme,
ou pas, là.
Femme ou pas femme, parce qu'on avait Terry Moran de ABC News la semaine dernière, qui a aussi conduit une entrevue pour les 100 jours, je vais reprendre ton expression, du règne de Donald Trump,
oui.
Où, au moment où il a obstiné, il lui a dit, toi, de toute façon, je te connais même pas, je t'ai choisi parce que finalement, t'allais peut-être devenir connu ou te donner une chance, mais je sais pas t'es qui. Ça a été vraiment ça, la phrase, là, qui fait un peu pas de sens, mais c'est comme ça que ça a été présenté. Ce qui était, là, très dur à entendre, là, c'était vraiment, t'es n'importe qui, t'es personne, et je te choisis quand même, donc obstine-moi pas. Alors voilà pourquoi je te réponds que je trouve que cette arrogance-là, c'est dès qu'on le confronte à certaines affirmations qui sont pas vraies, où on le met en doute, certaines des informations qu'il va avancer, que là, il devient en mode, je te dirais, tu sais, comme un chien qui est agressif, là, que tu veux vraiment là, attaquer la personne qui est devant toi. Alors, le ton a été quand même relativement cordial. J'ai trouvé comparativement avec ce que j'avais vu la semaine dernière, c'était calme. Oui, on obstinait. Pourquoi tu ne poses pas cette question-là? Pourquoi les médias comme toi ne parlent pas de X et Y chose? Mais ça fait partie, je trouve, du personnage et ça fait partie de Donald Trump quand il y a des entrevues comme ça. Puis j'ai trouvé qu'elle était solide. Elle restait très, très calme parce que ça doit pas être évident. On essaie de se mettre dans la peau de la personne qui interviewe Donald Trump. Je ne sais pas si toi, tu as Donald Trump devant toi qui te challenge.
Il peut aller n'importe où. Ça va être excessivement. En tout cas, tu sais que ça ne sera pas plate. Ça, c'est la première chose.
Tu dois être préparé et oui. Tu dois être. Je sais pas. Tu dois avoir confiance en toi. Ça, c'est certain.
Absolument. Donc, plusieurs sujets, je le disais, qui ont été abordés. Bon, des sujets qui intéressent le monde entier, mais aussi des sujets qui nous intéressent, mm-hmm. nous, au Canada, nous, au Québec. Commençons par parler de la Constitution américaine.
Oui.
Parce que il est allé quand même de déclarations, bon, je les qualifierais d'étonnantes.
Mm-hmm. Oui, parce qu'il a parlé, en fait, on lui remettait toujours en question, par exemple, pour le traitement des migrants qu'on va expulser sans qu'ils puissent se défendre. Bon, on dit que c'est protégé par le 5e amendement de pouvoir avoir une défense et tout ça.
Parce qu'il signe plusieurs décrets là, depuis le début de son mandat. C'est pour ça que la question constitutionnelle est abordée en grande partie.
Parce qu'on est sur le bord même, je dirais plus loin, d'une crise constitutionnelle où on voit comment est-ce qu'on interprète la Constitution, comment on est en train de l'appliquer aussi. Parce que oui, c'est une présidence par décret. On est en train de dire que le législatif, c'est-à-dire le Congrès, ben leur travail, c'est peut-être pas si important. Ça peut tout passer par la présidence. Mais ça, on s'approche plus d'un monarque, justement, que d'un président. Parce qu'aux États-Unis, il y a une séparation des pouvoirs. Là, sans entrer dans toute la poutine, là, t'as l'exécutif, le judiciaire, le législatif. C'est normal. C'est comme ça. Il y a une balance du pouvoir. D'habitude, tu travailles de concert avec le Congrès.
Il dit quand même qu'il va respecter la Cour suprême.
Oui, mais il l'interprète d'une façon qui est différente de ce que la Cour suprême a dit. Par exemple, la Cour suprême a pris une décision et lui dit, ah non, j'ai une victoire de 9-0 à la Cour suprême. C'était pas ça du tout. Là, ça, je te donne un exemple dans son langage qui est utilisé. Et on lui a demandé, mais Monsieur le Président, vous devez respecter la Constitution. Là, il a dit, I don't know. Genre, je ne le sais pas. Il dit, moi, je suis pas avocat. Je me fie sur ce que les gens autour de moi vont dire. Mais il me semble que c'est une question un peu de base. Là, oui, il va dire, ben là, j'ai pas dit vraiment que je la respectais pas. J'ai dit, je vais suivre l'avis juridique. Mais quand même, tu peux juste dire, je respecte la Constitution. Après ça, tu peux dire, je l'interprète d'une façon qui est différente. Mais juste d'avoir cette petite phrase-là, c'est sûr que ça fait un effet boule de neige. Mmh. Puis pour donner une idée aux gens, là, s'ils disent, OK, mais Trump, comment ça, c'est différent, sa présidence cette fois-ci? Premier mandat, ses 100 premiers jours, il y a 30 projets de loi qui ont passé au Congrès. Là, il y en a 5 qui ont été signés. Puis on n'en entend même pas parler. Alors, c'est vraiment une présidence où c'est lui qui est roi, qui est au centre de tout. Et on lui posait cette question-là aussi, à savoir, allez-vous être là pour un troisième mandat? Vous vendez des casquettes 2028, là. Mm-hmm. Donc, on sait que dans la Constitution, c'est 2 mandats seulement. Et il a dit, ça ne m'intéresse pas. Mais il a pas dit, j'ai pas le droit de le faire. Puis ça, c'est quand même une nuance.
C'est très important, oui.
Qui est importante. Il a dit, il y a des gens, là, qui vendent des casquettes avec 2028. J'avais le goût d'y répondre, mais monsieur, c'est sur votre site officiel qu'on vend les casquettes de 2028. C'est pas des gens dans la rue, c'est vraiment le site officiel de Donald Trump. Donc, au niveau de la Constitution, on est en train de l'étirer. Puis qu'est-ce qui arrive? Je te pose un peu la question, mais c'est une question en l'air. On ne sait pas la réponse. Qu'est-ce qui arrive? Si on lui donne une décision judiciaire, la Cour suprême prend XY décision et Donald Trump et son administration décide de pas suivre ça. qui l'empêche, qui l'arrête, qui va le chercher?
Mais parce que c'est toujours un peu ça la discussion autour de ce mandat-là, c'est de dire, parce que d'habitude on se dit tout le temps, mais il y a des courroies de sécurité, il y a des instances, mais là il est en train de les déboulonner les unes après les autres, de virer les gens à la tête de ces organisations-là qui sont les courroies de sécurité de l'Amérique. Et là justement, on est en droit de se poser la question. 51e État, le Canada comme 51e État, est-ce qu'il est revenu là-dessus?
Oui, il a dit c'est là pour rester. Je vais jamais arrêter d'en parler. Ça a été sa réponse à la question. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, par contre. Ben, je pense que oui. Il a dit que Mark Carney trouvait qu'il était very nice. Alors, il était très gentil, qu'il y a une bonne conversation avec lui. Et il a confirmé qu'il n'a pas parlé du 51e État. Donc, il n'a pas menacé la souveraineté du Canada dans l'appel qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, on va essayer de voir du positif où il y en a. Il avait dit aussi que c'est un very nice gentleman, hein, Mark Carney. Donc, il y a peut-être une relation qui va être... qui va partir sur des bases différentes qu'avec Justin Trudeau. Mmh. Par contre, il revient toujours avec la même cassette. On pourrait faire un copier-coller ce que je vois depuis des semaines. On subventionne le Canada. On n'a pas besoin du Canada, pas besoin du bois d'œuvre, pas besoin de l'énergie, pas besoin... Tu sais, ça revient tout le temps. Mais si t'en as pas besoin, pourquoi tu vas avoir le Canada?
Oui, puis c'est vraiment comme un système de bullying, là, entre guillemets. Puis il le fait pas juste pour le Canada. Tu sais, son affirmation sur Alcatraz. Tu sais, c'est très, très... particulier de dire, ben moi, je veux rouvrir Alcatraz, je veux même l'agrandir. T'sais, on rappelle qu'Alcatraz, c'est cette célèbre prison américaine fermée depuis 60 ans, qui est vraiment désuète, décrépite. Lui, il dit, Donald Trump, que ça serait destiné aux criminels les plus dangereux, comme c'était le cas, mais aussi, il y a la question des migrants dans tout ça. Et à peu près toutes les instances lui répondent que ce serait impossible de rouvrir cette prison-là, mais pourtant, lui, il dit, mais moi, je vais aller de l'avant. Mais c'est comme s'il est déconnecté du réel.
Et les gens, ils ont déjà dit, les responsables qui gèrent les prisons aux États-Unis, ont dit, ça va coûter trois fois plus cher juste essayer de rénover Alcatraz.
Puis mais moi, c'est le symbole pour lui, hein. C'est ça, l'affaire.
Puis je suis allée au mois d'août dernier à Alcatraz, là. Écoute, c'est très frais dans ma mémoire, cette visite-là. Puis là, je me dis, il n'y a pas d'eau potable. Comment est-ce que tu vas construire ça? Tu dois faire des genres de dortoirs pour les gens qui vont travailler là. C'était déjà insalubre il y a 60 ans, là. Comment est-ce que tu rénoves ça? C'est presque impossible, mais t'as raison, c'est le symbole. C'est toujours de dire, hey, moi, je veux ça, là, je veux avoir Alcatraz. Là, tout le monde connaît ça à travers la planète. Là, c'est dans la baie de San Francisco, dangereux criminel.
Tu viens de mettre le doigt sur ce qui, à mon sens, est la stratégie dominante de Donald Trump, c'est de dire les choses. Que ça se concrétise ou pas, il le dit, ça frappe l'imaginaire, ça fait le tour de la planète, donc son plan de com' fonctionne à merveille.
Absolument.
Et les gens vivent un peu toujours sur cette menace-là qu'il est capable de le faire. C'est-à-dire que comme il se fout un peu de tout, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va aller de l'avant avec ça, donc ça assoit son pouvoir en quelque sorte. Pas le choix de se questionner sur les tarifs concernant l'industrie du cinéma. C'est ce qu'il a annoncé, Donald Trump, que les droits de douane sur les films étrangers seraient, je crois, de 100%. Donc, autrement dit, je ne veux plus de films étrangers aux États-Unis. Mais là, au Québec, ça a quand même créé une onde de choc parce qu'il y a plusieurs productions américaines qui sont tournées ici. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Cette histoire-là, quand même, c'est particulier. Là. C'est sûr que on revient au symbole. Mm-hmm. Alcatraz, c'est un symbole. Hollywood, c'est le symbole de l'Amérique.
Oui, puis c'est dire on n'a pas besoin des autres pays pour faire nos productions. On a tout ce qu'il faut ici. C'est tellement merveilleux, les États-Unis. Mais quand on sait que juste les productions américaines, en 2023, 75% de ce qu'on a fait ici, c'est des productions américaines. C'est énorme là, pour l'industrie. Et il n'y a pas juste Montréal, Toronto, Vancouver.
Absolument.
On appelle ça Hollywood du Nord. Il y a plein de productions. Moi, je pense juste à X-Men à Montréal. Il y a quelques années, c'était la folie ici de voir toutes les vedettes d'Hollywood qui étaient là. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie. Est-ce que ça coûtait moins cher aussi de venir faire certaines productions ici? Sinon, pourquoi est-ce que les producteurs américains venaient là? Il y avait un intérêt au Québec, les effets spéciaux. On a vraiment une expertise qui est extraordinaire. Et je pense aussi que ce qu'il veut faire, c'est que parfait, ces cerveaux-là, ou ces gens-là qui sont très talentueux pour les effets spéciaux, ben, ils vont dire, ben, parfait, vous avez juste à déménager aussi à Hollywood. Vous avez juste à déménager aux États-Unis. C'est encore la solution facile,
c'est
la baguette magique.
Tout
se fait facilement.
Make America great again.
Voilà.
On termine en se parlant de cette image générée par l'intelligence artificielle de Donald Trump.
Ça va bien, cette chronique.
En pape?
Oui.
Non, mais c'est parce qu'on est au port d'un conclave, là. Ça se fera dans les prochains jours.
Oh là là.
Et cette image qui a fait énormément jaser et qui, là, va rester dans les annales.
Oui, parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. Lorsque la Maison-Blanche, le compte officiel de la Maison-Blanche sur Instagram ou autre, c'est gouvernemental. Alors, quand on publie une image générée par l'intelligence artificielle de Trump en pape, je le répète parce que pour être certaine que les gens ont bien compris ça, ça devient un document officiel. Puis on dit que ça va être un des documents d'archives les plus extraordinaires. Je ne sais pas si le mot est bien choisi de toute l'histoire.
Psychotronique, en tout cas, ceci
mais,
dit.
Mais il l'avait dit en entrevue. Il dit, moi, je pense que je serais un bon candidat pour être pape. Il y a des élus qui ont dit qu'il serait un très bon pape aussi. Alors, écoute, on est rendu là. On va
je
dire
le vois
ça,
dans la pape mobile en train d'ajouter sa petite main jaune.
Il aime beaucoup le doré. Hein. Alors, peut-être le luxe du Vatican et tout ça, ça irait bien avec Donald Trump. Mais chose certaine, il y a quand même des organismes très religieux aux États-Unis, catholiques, qui ont dit, écoutez, on est en train de moquer un processus pour nous qui est très, très, très sérieux.
C'est
donc,
vrai.
Ils ont quand même eu des levées de boucliers un peu pour dire que c'était très irrespectueux.
Je l'avais pas vu sous l'angle de l'hérésie. Valérie
oui.
Baudouin, merci.
Écoute, on termine avec ça.
Valérie Baudouin, qui est spécialiste en politique
avec
américaine.
Plaisir.
Vous pouvez l'entendre sur nos ondes. Ben là, en tout